Et c'est au tour de Monique de nous livrer sa chronique. Monique, autisme et agressivité, comprendre la complexité clinique et systémique, c'est le titre de l'article?
Oui, exactement, oui. Si nous avions rédigé l'article, Hélène, on se serait peut-être posé une question, mais bon, voilà.
Oui.
J'ai respecté l'auteur qui est Béatrice Saint-Cyr Leroux, qui relate donc la recherche de deux experts. Alors, récemment, les médias ont relayé, pardon, des témoignages d'éducatrices spécialisées et d'enseignants qui rapportent des blessures allant jusqu'à des traumatismes crâniens causés par des enfants autistes ou atteints d'une déficience intellectuelle. Parallèlement, mais il y a des parents qui ont partagé leur désarroi et leur impuissance puisqu'ils sont confrontés à des crises de colère incontrôlables de leur enfant. Alors, s'il existe chez les enfants dits neurotypiques, bien ces comportements agressifs semblent plus fréquents et intenses chez les jeunes qui souffrent d'un trouble neurodéveloppemental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un trouble neurodéveloppemental? Bien, c'est soit un trouble neurologique qui se manifeste de manière précoce pendant la période de développement de l'enfant et qui se manifeste par des déficits dans une ou plusieurs sphères du développement, dont la motricité, le développement du langage, de la cognition, de la communication ou encore des interactions sociales. Et parmi les troubles neurodéveloppementaux, bien, il y a notamment le trouble du spectre de l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention, la déficience intellectuelle et les troubles d'apprentissage. C'est donc assez vaste, hein, n'est-ce pas? Ça couvre beaucoup d'aspects. Alors, pourquoi se manifestent-ils? Sont-ils vraiment en hausse et que faire pour les prévenir? Eh bien, deux spécialistes de l'autisme et professeurs à l'Université de Montréal font le point. Il s'agit de Marc Lanovaz de l'École de psychoéducation et du docteur Alexis Beauchamp-Châtel, qui est psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et également professeur adjoint de clinique au département de psychiatrie et d'addictologie. Alors pourquoi ces crises? Ben, derrière tout comportement, qu'il soit adapté ou non, dangereux ou non, se trouve un besoin légitime que l'enfant essaie de communiquer du mieux qu'il peut, nous dit le docteur Beauchamp-Châtel. Parce que les crises de colère des enfants autistes et les gestes agressifs qui les accompagnent parfois ont toujours une fonction. Alors, quelles sont ces fonctions? Ils servent à partager un désir, un refus, une incompréhension, une demande d'aide, un inconfort sensoriel, un sentiment. Les comportements défis sont surtout des moyens de communication quand les enfants n'ont pas d'autre façon d'obtenir ce qu'ils veulent ou d'éviter ce qu'ils ne veulent pas. On se garde de dire qu'il s'agit de violence puisqu'il y a une connotation très négative associée à ce terme. En somme, la crise est un peu comme la pointe d'un iceberg où la détresse témoigne d'une difficulté à exprimer ses besoins et à se faire comprendre ou à bien comprendre les autres.
Il n'y a rien de gratuit
Alors,
dans ce comportement-là.
pardon?
C'est pas un comportement gratuit.
Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est ce qu'on comprend et je pense que c'est très important de saisir la
Ouais.
teneur de ces gestes, de ces crises ou de, comme ils les appellent, ces comportements défis. Alors, que faire? Mais lorsqu'un enfant manifeste un comportement défi, la première chose à faire est de reconnaître la fonction derrière ce comportement. Donc, il faut un petit peu d'analyse. En fait, il faut analyser rigoureusement les événements et les facteurs qui précèdent la crise, ainsi que la réponse comportementale, accumuler de nombreuses occurrences pour émettre des hypothèses quant aux causes, et ensuite, on peut réfléchir à des solutions potentielles. Par exemple, si on remarque que l'enfant se désorganise chaque fois qu'il doit se rendre à un tel cours parce que le corridor pour y aller est trop bruyant, ben, on peut lui proposer de porter des coquilles. Ou encore, si on voit qu'un enfant non-verbal vit beaucoup de frustration parce qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, ben, on peut lui fournir des pictogrammes, des logiciels ou des objets ou encore lui enseigner des gestes. Alors, outre cette évaluation fonctionnelle, les deux spécialistes martèlent l'importance d'une prise en charge précoce pour éviter une aggravation des comportements des filles. Alors, il va sans dire qu'il est plus facile de maîtriser un enfant de 3-4 ans qui frappe qu'un adolescent de 14-15 ans qui donne des coups. Et plus l'enfant vieillit, plus le conditionnement devient ancré et difficile à déconstruire. Le cadre doit donc être instauré jeune. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, quand on lit les journaux qui font état des rapports d'accidents dans des écoles spécialisées, mais aussi dans des écoles ordinaires, on peut se demander si les comportements agressifs des jeunes autistes se sont exacerbés dans les dernières années. À cet égard, Marc Lanovaz est catégorique, Hélène. Il nous dit que les comportements des filles sont une réalité qu'il constate depuis ses débuts dans le domaine et il ne date pas d'hier. Il y a plus de 20 ans qu'il œuvre dans ce domaine.
Donc, il n'y aurait pas eu d'augmentation?
Selon lui, non. Mais ce qui arrive, c'est que les listes d'attente particulièrement longues pour consulter un spécialiste peuvent aggraver le problème en empêchant les intervenants d'agir aussi précocement et rapidement qu'il le faudrait. Aussi, sur le plan de l'intervention, la clé du succès est la rigueur. Or, avec une pénurie de main-d'œuvre spécialisée et le roulement de personnel dans les écoles, les problèmes persistent, alors qu'ils auraient pu être réglés en quelques mois d'intervention systémique, mais les gens font de leur mieux dans les circonstances. Le docteur Beauchamp-Châtel constate aussi certaines entraves systémiques, notamment des lacunes dans l'accès aux services et le manque de professionnels qui peuvent aider à l'analyse fonctionnelle. Alors, ce chapitre, il nous rappelle que cette pénurie fait partie des enjeux au cœur des négociations actuelles entre le gouvernement et les syndicats. Mais peut-être qu'il y a une solution technologique. Alors, à ce titre de chercheur, Marc Lanovaz étudie les façons d'améliorer les prises de décision cliniques et de faciliter l'évaluation, puis le traitement pour les parents ainsi que pour le personnel de la santé et bien sûr celui du milieu de l'éducation. Il s'intéresse en particulier au recours à l'intelligence artificielle et à l'élaboration d'applications mobiles et web. Alors, le chercheur a récemment mis au point une formation interactive pour aider les parents d'enfants aux prises avec un trouble du développement à réduire les comportements problématiques à la maison. Alors, vous trouverez cette formation, Hélène, gratuite, il faut le mentionner, sur le site OpenIWT. Alors, il y a plusieurs onglets disponibles, mais il faut aller sous celui qui s'intitule « Formation interactive pour réduire les comportements problématiques ». Bon, il faut s'inscrire, ce que je n'ai pas fait pour vérifier parce que je n'avais pas vraiment de cas réels à porter, mais je pense que c'est intéressant pour ceux qui ont besoin de cette information-là.
Ah oui, cliquer, c'est openiwt.org si on veut assister, si on veut… se rendre sur le site Internet.
Oui, exactement. Vous y êtes, j'imagine.
J'y suis.
Oui. Alors, vous voyez, je pense que c'est la deuxième colonne. On voit la formation de Marc Lanovaz.
Mais on me demande, Monique, de me connecter. Oui. Nom d'utilisateur, mot de passe.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui. C'est la seule chose qu'on nous demande, mais je n'ai pas osé le faire parce que je me suis dit, bon, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Hein. Je n'ai pas de cas réel à soumettre.
D'accord, mais c'est quand même vraiment une formation… Pour ceux et celles qui en ont besoin, là, c'est une bonne piste.
Oui, exactement. Également, en collaboration avec la Fondation Autiste et Majeur, Marc Lanovaz travaille à la mise au point d'un algorithme, alors écoutez ça, pour montre intelligente, qui permettrait de prédire l'apparition des comportements des filles. Et ce, en mesurant certains signaux physiologiques, comme le rythme cardiaque, la conductance thermique et température. Alors, la montre pourrait donc détecter la crise avant même qu'elle se produise et en avertir la personne ressource. Et ce ne serait pas extraordinaire, ça?
Ce serait extraordinaire. Là, dans ce temps-là, on aime bien la technologie.
Exactement. Alors, c'est sûr que, comme il dit, à terme, cet outil pourrait améliorer les processus cliniques et minimiser le risque de blessures chez les intervenants. Alors, on souhaite que cela se réalise le plus rapidement possible. Et en complément, Hélène, je rappellerai un livre qui a été publié par Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles qui s'intitule « L'autisme expliqué aux non-autistes ». Et ça a été écrit en collaboration avec Kim Thuy. C'est publié au Trait Carré, ça a été publié en 2017. Alors, Kim Thuy nous rappelle que c'est en utilisant la méthode développée par Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles, toutes deux spécialistes de l'autisme et la dernière fondatrice de SACAD, qu'elle a réussi à comprendre et à se faire comprendre par son fils Valmont qui est autiste.
Oui.
Alors, puis il y a un livre audio, je pense, qui est disponible aussi.
Rappelez-nous si le titre, Monique.
C'est l'autisme expliqué aux non-autistes.
Parfait.
Et c'est
bien, merci.
Publié au Trait Carré.
Super. Merci beaucoup.